9h30 minutes. Notre invité ce matin s'appelle Charles Goyer. Vous allez me dire qui est-ce? Je vous donne quelques détails, après ça, on va le découvrir durant l'entrevue. Il est donc importateur de vin, agent de brevet. Ce sont ses activités professionnelles. Il est le père de Camille et de Charlotte. Charlotte, vous la connaissez un peu plus. C'est Charlotte Cardin. Monsieur Goyer, bonjour.
Bonjour. Honoré d'être ici.
Bien, moi, ça fait plaisir de vous recevoir. On va parler de vos filles d'abord, puis après ça, on parlera de vos activités professionnelles, puis après ça, j'allais dire de votre, je dirais, vos activités parascolaires sur les réseaux sociaux, parce que vous écrivez pas mal, puis vous dites pas mal de choses. Parlez-moi de vos filles. Bon, les gens connaissent Charlotte, c'est sûr. Comment ça s'est profilé, ce talent-là? Comment vous l'avez senti comme parent? Puis qu'est-ce que vous avez fait autour d'elle?
Écoutez, il y a beaucoup de musique dans la famille et puis c'est important pour nous que les filles étudient la musique ou jouent des instruments. Camille, elle a fait son secondaire à Pierre-Laporte dans le temps qu'il y avait un...
Concentration musique.
Ouais, ouais. Et donc, il y a ça, ça chantait beaucoup dans la famille de ma femme. Charlotte a commencé au piano, puis à un moment donné, elle a dit à sa mère, « Moi, j'ai le goût de chanter. » Fait que elle a pris des cours de chant pendant genre 9 ans, puis sa sœur la poussait à chanter devant ses grandes amies, parce qu'ils ont 5 ans de différence. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'elle s'est fait propulser un petit peu à chanter des Spice Girls avec des micros roses, puis à faire la vedette, tu sais. Puis elle a senti qu'elle était vraiment confortable et bien là-dedans.
Que c'était pas un enfant poussé, là. C'était un enfant qui voulait sentir qu'elle avait envie de ça, de chanter.
Non, je pense qu'on n'est pas comme dans le film.
Oui.
Non, non, écoutez, tu sais, il y a une rigueur en musique qui est une... Je trouve que comme le sport d'équipe peut l'être aussi. Tu sais, il y a des sortes de rigueurs dans la vie. Que la musique enseigne. Et puis ça, on aimait ça. T'sais. Mais évidemment, si les filles avaient dit « Non, non, moi, j'ai pas le goût de faire ça », ben on leur a arrêté ça. T'sais.
Et quand ça... Vous avez senti, bon, le talent, c'est sûr, là, puis en même temps, l'espèce de volonté d'en faire un métier ou en tout cas d'aller le plus loin possible, comment vous avez réagi puis comment vous l'avez aussi encadré à travers ça?
Ben, en fait, il y a deux moments. Il y a un moment où est-ce que au primaire, je pense qu'elle était en quatrième année, puis elle jouait avec les sixième années, qui l'avait pas trop considérée comme chanteuse parce qu'elle était trop jeune. Mais la mère du guitariste qui organisait le spectacle a dit il faudrait qu'on l'auditionne. Puis nous, on a vu Charlotte chanter du White Stripes puis du Led Zeppelin. Sylvie et moi, là, on se pinçait, là, on capotait. Là. Elle avait une aisance. C'est comme si elle avait fait ça toute sa vie. Mais elle avait 8 ans, 9 ans, je ne sais plus. Là. Fait qu'il y a eu ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose. Évidemment, elle chantait dans des fêtes et tout ça. Puis après ça, c'est quand elle a fait la voix, elle m'a dit, « Papa, l'endroit où je suis le mieux au monde, c'est sur une scène. » Fait que là... Tu sais, comme parent, t'as pas le choix de laisser aller ton enfant au bout de ses rêves, tu sais. Puis, de toute façon, on sait depuis qu'elles sont nées que nos filles sont intelligentes. Tu sais, moi, je me rappelle quand Camille est née, le plus grand jour de ma vie, elle avait comme 2 minutes, puis je voyais son intelligence, elle regardait partout, elle était en retard, un gros bébé, puis je me dis, faut pas que je scrappe ce potentiel-là, tu sais. Fait que, tu sais, Sylvie et moi, on a des doctorats tous les deux. Pour Charlotte, c'était compliqué dans sa tête de ne pas étudier plus que ça. À l'époque, elle a même arrêté le cégep. Elle l'a fini par la suite. Ça a d'ailleurs fait partie de son processus de prendre son temps. Elle est retournée au cégep. Après la voix, elle l'a fini. Elle a fait un peu de mode. Fait qu'elle a arrêté 2 fois. Mais... Écoutez, tu sais, l'éducation, bien sûr, c'est important parce que ça confère de la liberté dans la vie. Mais la passion, il n'y a rien qui remplace ça. Fait qu'on n'avait pas le choix que de la laisser aller. Tu sais, ça aurait été la plus grosse erreur, je pense, qu'on aurait faite si on avait...
Jouez-vous un rôle dans la gestion de sa carrière ou si vous êtes le père, un fan, puis vous la laissez aller?
Ouais, ben en fait, moi j'ai quitté un cabinet où j'étais un associé principal. J'ai renoncé à une carrière importante parce que j'étais plus aligné avec la philosophie des gens où je travaillais. Et je me suis occupé de Charlotte la première année après la voix. Trouver une avocate, un bureau de comptable, dire non à beaucoup de personnes qui voulaient travailler avec elle. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi dans le milieu parce que je considérais peut-être la gérer moi-même. Puis je pense que c'est une des belles décisions de ma vie. De céder ma place à Jason Brando, que j'adore, puis avec qui Charlotte a une chimie qui est absolument extraordinaire. Puis c'est clair que je m'aperçois que c'était vraiment pas ma place. Donc, pendant un an, je me suis occupé d'elle. Et puis après cette année-là, ben Robic est venu me chercher, puis là, je suis chez eux.
Agent Brevet.
Ouais. Mais en fait, je fais du développement d'affaires pour eux maintenant, là, mais ouais, c'est ça.
Notre invité ce matin, Charles Goyer, je le disais, père de Camille et de Charlotte. Les deux sœurs ont une différence de quoi, 5 ans à peu près, de différence d'âge. Vous dites les deux ont été attirés par la musique, les deux ont démontré des aptitudes. Quand la plus vieille voit la plus jeune décoller, ça se passe comment? Est-ce que c'est parfois d'être la fille de, la sœur de, hein, c'est difficile?
C'est très, très complexe à gérer pour une famille. Tu sais, je me rappelle avoir dit à Stéphane Laporte comment, tu sais, comme la voix, là, ça change pas juste une personne, ça change toute la famille au complet. Tu sais, tu postes sur Facebook avant la voix, puis tu as 3 likes en 3 heures, puis après la voix, ben tu as 10 000 likes en 12 secondes. Là, tu sais, ça fait que... C'est pas pareil. Puis c'est pas tout le monde qui est habilité aussi à bien réagir à cette sorte de montée au ciel. Et Camille, elle vivait un moment difficile à ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça a été moins facile pour elle de regarder sa sœur dont la fusée grimpait à grande vitesse. Mais c'est les deux meilleures amies du monde. Et puis, c'est la je pense encore la plus grande conseillère de Camille. Tu sais, c'est rare que Charlotte valide pas des choses avec sa grande sœur. Fait que on a cette chance-là, mais que Camille et Charlotte soient si amies que ça, c'est vraiment un cadeau du ciel.
Son album est extraordinaire, les critiques, là, puis bon, on lui souhaite une carrière avec le plus grand rayonnement. Quand vous entendez votre fille chanter des chansons un peu sexées, un peu épicées, très explicites, là, comment le père réagit?
Ben, Sex to Me, c'est une grandiose toune, d'ailleurs. Mais, garde, je suis un grand, grand fan de mes filles. Tu sais, ma plus grande contribution sur la Terre, c'est mes filles. C'est pas compliqué. Le reste, c'est vraiment des détails. Dans le film, là, quand elle se déshabille, je sais pas si vous l'avez vu, le Phoenix Experience, j'étais sûr qu'elle allait faire ça. Elle a un petit côté provocateur, mais elle est toujours dans le goût et dans la sophistication. T'sais. Fait que, oui, elle fait un striptease, mais on voit rien. T'sais. Puis ça, c'est du grand Charlotte, puis c'est du grand Camille aussi, d'avoir un petit côté caustique, baveux un peu. Là, t'sais, juste...
Provoquer correctement.
Ouais. Fait que, regarde, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que la carrière est menée avec brio. Là. Tu sais, en ce moment, elle est numéro 1 pour la 2e semaine de suite au Billboard canadien. La seule autre femme qui a fait ça, c'est Céline. Puis le record, c'est 3 semaines de suite. Puis les 2 seuls artistes canadiens qui ont fait ça, c'est Céline puis Leonard Cohen. Tu sais, c'est pas rien. Là. Tu sais, c'est comme... C'est notre Charlotte, là. Tu sais, c'est... Fait que nous, on capote, là.
C'est sûr. On vous comprend. Parlez-moi de vous un peu. Qu'est-ce qui vous a amené, parliez tantôt là, de développement des affaires, mais parlons aussi de votre entreprise Céleste Vin. Vous êtes le président fondateur. La passion du vin, ça a commencé comment?
Ça s'appelle la Céleste. Depuis une semaine à peu près, on vient de faire une restructuration corporative. Puis avant, ça s'appelait la Céleste Levure. Moi, j'ai fait un doc sur la levure. Fait que je combinais comme deux affaires en même temps. Écoutez, je suis venu fou en prenant un cours avec Jules Roiseux, qui était un gros bonhomme là, qui parlait de fromage à une certaine époque. Il a été un des premiers sommeliers au Québec, professionnel, je pense. Et puis, c'est vraiment lui qui m'a contaminé avec... avec la beauté d'une des plus grandes créations que l'humain a fait. Le vin, c'est complexe, c'est grand, c'est de l'histoire, c'est de la géo, c'est de la nature, c'est de l'humain qui essaye de valoriser une parcelle pour la retransmettre avec plus de valeur à quelqu'un d'autre. Il y a un côté agriculture, je sais pas si ça vient du côté de mon père, en tout cas, whatever, mais il y a un univers absolument fascinant là-dedans. Puis moi, ça m'a vraiment interpellé. Et puis j'ai commencé à tout lire. Ben, j'ai un petit côté excessif. Et puis j'ai eu une opportunité d'affaires d'importer des vins californiens en 93. C'est là que la Céleste Levure est née. Et puis, Camus, qui est reconnu comme « the king of cab » en Californie, est la première maison qui nous a dit oui.
Mais là, vous en représentez combien depuis ce temps-là?
Une centaine.
Une centaine?
Oui, oui. Fait qu'on a eu comme 14 employés. Là, on perd le 1er juin. En fait, on a vendu la représentation des deux plus gros fournisseurs de la Céleste. C'est Camus et Hope Family Wines, Liberty School, qui est vraiment...
Un classique.
Mais tu sais, ils n'ont jamais été avec personne d'autre que nous. T'sais. Fait qu'on a fait la job, puis là, ben, ils s'en vont pour être représentés de façon nationale. Ils ont fait ça de façon hyper humaine. Puis nous, c'est un nouveau chapitre qu'on repart. Fait que,
Mais ça veut dire avoir des liens aussi très personnels avec les vignerons,
ouais.
Les différents producteurs, c'est ça que ça veut dire aussi.
Oui, puis c'est... Fait que nous, on est comme l'interface entre un producteur de vin puis le marché du Québec. Alors, on essaye de convaincre la SAQ de vendre nos vins dans les succursales. Ce qu'on fait, parce que nous, on fait pas beaucoup d'importations privées. On en fait, mais pas beaucoup. Donc, nos vins se retrouvent en SAQ. Le marché du vin au Québec est magnifique. La SAQ est un partenaire d'affaires fantastique. Il y a eu des périodes de la SAQ dans leurs 100 ans où les agents étaient un mal nécessaire. Je pense que maintenant, il y a...
Un changement de philosophie.
Il y a plus un partnership, puis ça, c'est vraiment cool, parce que...
Comment vous vivez? Là, on parle beaucoup de bon succès de vos filles, succès en affaires. Quand des moments difficiles arrivent, votre femme a été touchée, frappée par un cancer?
Non. Non, non, non. Non.
Non?
On peut penser, mais non. Non. Ma Sylvie, elle n'a pas eu le cancer. Mais elle voulait pas que je parle de ça, d'ailleurs. Non, mais là, j'ai comme pas vraiment le choix. On va y aller. Ma Sylvie, elle a été touchée par une alopécie, qui est la perte de cheveux.
OK.
Et donc...
C'est pour ça qu'on a pensé ça.
Ouais, ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Tu sais, des photos, des fois, j'ai mangé au Luciano, tu sais, une petite plug, c'est un restaurant extraordinaire dans Villeray. Puis je me rappelle avoir posté une photo de Sylvie qui était magnifique avec un foulard. Puis les gens ont réagi, comment va-t-elle? Mais non, c'est pas un cancer. Heureusement.
Heureusement.
Puis c'est vrai que je m'implique beaucoup dans le cancer. Donc, il y a peut-être aussi cette perception-là parce que ça fait maintenant 5 ans, je pense que je fais des levées de fonds avec la Céleste pour amasser de l'argent sur le cancer. Puis je me suis fait raser plusieurs fois. Sur Facebook, j'embrasse une petite fille qui était comme ma coprésidente quand j'ai pris la présidente d'un défi tête rasée, puis elle est morte l'année dernière d'ailleurs. Alors c'est peut-être ça la
perception qu'on a eue.
Ouais, ouais. Non, heureusement, pour l'instant, on n'est pas diagnostiqué positif.
OK. Vous êtes c'est-à-dire hyperactif sur les réseaux sociaux. Vous commentez beaucoup, puis vous... comment je dirais ça? Il y a des gens pour qui l'indignation, là, c'est essentiel. Quand on voit des choses qui n'ont pas d'allure, des injustices, des gens qui vivent des situations humaines difficiles, vous le dites et vous le dites très fort, là. Vous sentez ce besoin-là de le dire.
Ouais, puis ma mère, elle trouve que je fais un fou de moi. Elle m'a dit ça, là. Fait que, maman, je sais que tu m'écoutes, mais écoutez, on est vraiment chanceux, tu sais. Moi, je pense que naître dans une famille où tes parents t'aiment, là, déjà, c'est une grande chance. Tout va bien, là. Tu sais, j'ai une belle carrière, on vit bien. On peut s'acheter de la Haagen-Dazs sans trop se demander si on va être capable de le payer. Je dis que je suis l'homme le plus riche du monde. Je le pense parce que j'ai mes deux filles, j'ai des amis extraordinaires. Fait que je réalise ma chance puis je m'indigne devant l'abrutissement de certaines personnes autour de moi, tu sais. Fait que...
Qu'est-ce qui vous rend le plus en colère?
J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'injustice. Beaucoup. Je trouve que le fait que les femmes sont pas payées qu'il n'y a pas d'équité salariale, moi, ça me dépasse. Tu sais, on a tout le temps une raison pour attendre, là, mais je pense que c'est là. Tu sais, la violence contre les femmes, ça me détruit. Hier, tout le monde en parle, c'était grandiose. Écoutez, il y a tellement d'affaires. Les politiciens qui nous mentent, je fais une sorte d'obsession contre Trump, là, mais tu sais, c'est pas juste Trump, là, c'est partout. Là. Tu sais, il y a une sorte de contamination du discours. Tu sais, que les gens se tapent sur la gueule pour la Palestine puis l'Israël, comment ça se fait qu'on n'est plus capable de se parler? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'indignent. Puis pendant ce temps-là, il y a des infirmières qui étaient là. Moi, notre belle-mère, ma belle-mère est morte de la COVID. Ça va faire un an dans une dizaine de jours. Tu sais, il accompagne quelqu'un avec un téléphone parce que tu peux pas aller là. Tu sais, c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de gens ordinaires qui sont extraordinaires. Puis je pense qu'il faut qu'on pense à eux. Puis il faut qu'on soit collégial. Puis qu'il faut qu'on vive en société puis qu'on fasse notre part. Tu sais. Fait que...
Charles Goyer, merci beaucoup d'être venu ce matin. On va se laisser avec l'extrait d'une chanson d'une chanteuse que vous connaissez assez bien, si vous permettez. Switching it up, oh what, now I'm your diva. You're out of luck, baby, I might deceive ya. Ça vous amène à 9h49, courte pause et on revient après en conclusion.